professeur. Nous avons en France une nouvelle définition de l'assistance publique, des soins publics, avec plutôt le choix de pôles d'excellence et non plus de pôles de proximité. Par exemple, à Marseille, nous n'avons plus que deux grands hôpitaux, un au nord et l'autre au centre-ville. L'hôpital sud voit des services disparaître, l'hôpital nord d'ailleurs aussi. Il y a une spécialisation vers l'excellence. Vous avez donc une réflexion. D'abord, qu'est-ce que vous pensez de cette évolution de l'assistance publique en France ?
Mais la proximité ne rime pas avec qualité des soins, ni avec égalité. C'est une erreur fondamentale que beaucoup de Français font. Bien souvent, dans des petits hôpitaux, vous avez des équipes qui ne sont pas permanentes et dont l'activité est trop faible pour acquérir un vrai savoir qui permette la sécurité. Et donc, on croit qu'en ayant un hôpital à 3 km de chez soi, au lieu d'en avoir un à 30, on va être mieux soigné. C'est faux. Quand on regarde en France, les taux de fuite, ce qu'on appelle le nombre de gens, on le sait par le code de la ville, le nombre de gens qui ne vont pas dans le petit hôpital du coin et qui vont se faire traiter ailleurs est parfois considérable. Ça peut monter à 80-85%. Donc on s'aperçoit en plus que ce sont les plus pauvres et les plus vieux, les moins informés, qui restent dans ces petits hôpitaux où il y a parfois des accidents qui n'auraient pas eu lieu ailleurs. Donc moi je suis là-dessus d'une autorité absolue. Il ne faut pas maintenir des hôpitaux à faible débit d'activité opératoire ou d'accouchement. Et là à Marseille, effectivement, il y a une concentration des moyens répartis entre les deux CHU qui restent, les deux hôpitaux qui restent, parce qu'il y avait une dispersion. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas de la proximité. Il faut en même temps injecter des maisons de santé où se regroupent les professionnels, les médecins, les infirmiers, les kinésies, les psychologues, les assistantes sociales, les associations de patients, du reste, qui pourraient y être, de façon à assurer ce que j'appelle des soins comme on a les Carrefour City ou les petits monopes qui ouvrent dans le quartier au lieu d'avoir les grandes surfaces. Ils sont très utiles, donc il faut les deux. Il faut multiplier les maisons de santé en France avec des médecins libéraux, des infirmières libérales. Il en faut 10 000, on en est à 1 000 à peu près. Il en faut 10 000, ça va remplacer le médecin dans son coin, dans sa maison en meulière au bout du village. Celui-là, c'est fini. Plus personne, les jeunes ne veulent plus travailler seuls. Ils veulent travailler en groupe, ils se regroupent dans sa maison de santé. Et à tour de rôle, l'un ou l'autre pourra aller dans les petits villages où moi j'ai discuté avec la poste et par exemple, ne fermons surtout pas les postes et transformons-les en petits cabinets secondaires d'infirmiers ou de médecins qui passeraient dans les petits villages. Donc il y a toute une réflexion sur l'aménagement du territoire et l'organisation des soins qui est en cours et qui amène à concentrer les moyens lourds sur des plateaux techniques. Ça coûte très très cher aujourd'hui. Avant, on opérait avec trois pinces et deux ciseaux. Maintenant, si vous regardez le matériel qu'il y a dans une salle d'opération, c'est considérable. Donc concentration des hommes et des moyens pour tout ce qui est des techniques lourdes, et ensuite dispersion au contraire pour tous les soins de proximité, alors les soins de base dans les maisons de santé.
Alors précisément, vous venez d'évoquer l'équipement nécessaire. Il y a des blocs opératoires robotisés, il y a des formules non intrusives de la chirurgie. Elles coûtent excessivement cher, elles sont parfois financées par le privé ou bien les collectivités locales. Autrement dit, avec la réflexion de vraiment de l'argent public de l'État, ça ne va pas créer une inégalité de soins ?
Non, je ne crois pas, parce qu'aujourd'hui, si vous parliez des robots, les robots sont chers, parce que pour l'instant, il y a une seule compagnie au monde qui les produit régulièrement, de façon commerciale. Demain, c'est-à-dire demain, vraiment. La concurrence est en train d'arriver, et le prix va être divisé par deux, puis par trois, puis par quatre. Aujourd'hui, un robot coûte à peu près 2 millions d'euros. Un robot chirurgical pour faire toute la chirurgie abdominale et du petit bassin. Demain, on les aura. Dans 10 ans, on les aura à 300 ou 300 000 euros. C'est toujours comme ça. Donc, je ne suis pas inquiet à terme. Et puis, on a besoin de ces machines. Elles nous aident considérablement. Il faut les optimiser. Il faut qu'elles tournent tout le temps. Donc, il faut encore une organisation humaine autour qui permette qu'on puisse utiliser au maximum ces instruments. Et quand un hôpital commence à opérer, à ouvrir ses blocs à 9h et finir à 3h de l'après-midi, il ne peut pas être productif. Il faut qu'il commence à 7h30 du matin et qu'il finisse à 20h. Et donc c'est une réorganisation des hommes autour de tout cela. Donc ça demande du management, ça demande de l'esprit d'entreprise. Mais en France, quand on parle d'entreprise pour l'hôpital, tout le monde hurle en disant « Non, non, c'est pas une entreprise. » Si, c'est une entreprise. C'est même la plus belle d'entre elles, en ce sens qu'elle assure le soin et elle promet de la santé. Donc c'est le plus beau bien des biens, la santé. En plus, c'est une entreprise extrêmement citoyenne puisqu'elle est faite d'abord d'hommes et de femmes. deux tiers du chiffre d'affaires d'un hôpital est dévolu au salaire. Donc c'est une entreprise citoyenne. Et troisièmement, il y a très peu de risques de délocalisation. Donc on a tout intérêt à instiller du management entrepreneurial dans l'hôpital pour le faire être le plus performant possible et le moins, je dirais, dispendieux possible.
Oui, mais alors là, vous retombez avec les risques de grève des salariés organisés dans des syndicats qui, justement, ne croient pas à l'entreprise, veulent le public. Il y a presque une religion de l'hôpital public.
Oui, mais il faut le décloisonner. Cette année, le thème de la convention que j'organise s'intitule « L'argent de la santé ». Et le premier débat est « Est-ce que la santé était une économie à part ?» Non, pas du tout. Elle est dans l'économie marchande. Nous sommes dans un monde capitaliste. Alors, ceux qui ne veulent pas en être, qu'ils dégagent. Ils n'ont qu'à aller en Corée du Nord. On les attend. Il y aura sans doute très bien, mais il y a un moment où ça suffit, il faut mettre les points sur les i. Et je pense que le capitalisme a ses défauts, il en a de très gros, mais c'est le seul espace quand même en Europe et ensuite aux États-Unis, au Canada, qui a vu se développer les droits de l'homme et les républiques. Et tout ce qui fait que nous avons une humanité qui vit mieux aujourd'hui qu'hier. Donc moi je ne suis pas inquiet là-dessus. Et ce qui compte, c'est de discuter beaucoup les syndicats, si on leur parle, si on les amène vraiment dans le projet, en leur disant on va le faire avec vous et pas voici on vous propose la feuille, vous signez, ils y viendront parce que c'est leur intérêt aussi. On ne va pas réduire les personnels, il y aura peut-être des transferts de personnel d'un endroit à l'autre, mais on va pas supprimer forcément des personnels, à ceci près que la robotique aujourd'hui va toucher tous les domaines, de l'avocat au notaire, en passant par le banquier, en passant par la grande surface commerciale, en passant par l'hôpital. Et on sait très bien qu'on va avoir probablement, d'ici 2030, 20% de chômage de gens qui ne sont plus utiles, hein, utiles dans les métiers qu'ils faisaient. Ce qui est un vrai problème, parce qu'il faudra les former à autre chose. Et oui, il faudra leur apprendre d'autres choses. Et on aura besoin à terme de plus en plus de métiers de relation par rapport à cette utilisation des robots et des écrans qui nous connectent, mais ne nous font pas être en capacité de converser. Donc les hommes se retrouveront, ils auront besoin de se retrouver de plus en plus dans des lieux de relation. Et là, il y aura besoin de personnel dédié, qui ne demande pas forcément des années d'études.
Alors, dernière question, les centres hospitaliers, ils sont aussi universitaires, ils forment, et puis il y a aussi les organismes de recherche qui leur sont associés. Comment, dans votre nouvelle définition de la santé, vous intégrez cette recherche et cette formation des futurs médecins ?
Alors, pour ce qui est de la formation, il faut ouvrir les portes aux médecins praticiens, aux médecins de ville et aux maisons de santé où ils seront réunis, de façon à ce que les internes et les étudiants en médecine puissent aller voir comment ça se passe dans la vie réelle, dans la vraie vie, comme on dit. C'est très important. Il faut donc ces passerelles entre privé et public. Et c'est encore difficile en France. Il y a des résistances. Mais on va y arriver parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Donc, de toute façon, on ira. Ça, c'est la première chose, la formation initiale. Et puis, la formation continue doit être beaucoup plus développée, de façon à ce que les acteurs, tous les 5 ans, puissent revoir leurs copies, être vraiment informés de ce qui s'est développé au point de vue recherche, et éventuellement changer de métier, parce qu'on ne fera plus un métier toute sa vie, probablement, à terme. Les jeunes vont faire 2, 3, 4 métiers différents, en tout cas 2, 3, 4 postes très différents dans une branche donnée. Il faudra les reformer régulièrement. Donc, c'est encore un travail où l'université doit accepter que les entreprises viennent à la fois en demandeuse de transformation et en participation à la transformation des employés. Et sur la recherche, bah écoutez, la recherche, la France est, dans certains domaines est bien placée, dans d'autres elle l'est moins. La recherche n'a pas à être forcément tout public, hein, il n'y a aucune raison. Bien sûr que le public est utile, l'INSERM, le CNRS sont des outils utiles où il y a aussi dans certaines unités des pesanteurs, des lourdeurs, et on pourrait probablement mieux faire. La recherche doit être un partage entre l'industrie et le public. Or, en santé, on déteste que les industriels participent à la recherche parce qu'on se dit, oh là là, ils font ça pour aller vendre des médicaments et pousser au gâchis. Je trouve que c'est un concept absurde et qu'en faisant ça, on se tue. L'industrie doit revenir dans l'université, elle doit participer à la recherche, elle doit aider à la création des molécules, elle est indispensable. Donc il ne faut pas la considérer comme une pestiférée, c'est une erreur fondamentale. Même s'il y a eu des scandales, on le sait bien, ce n'est pas une raison pour refuser l'aide de ceux qui font les produits dont on vit. Qu'on le regarde ou non, cette industrie est absolument vilipendiée tous les jours dans la presse, alors qu'elle sauve des millions de gens par les produits qu'elle crée. Donc soyons un peu plus lucides et jouons un jeu gagnant-gagnant entre les industriels, les chercheurs, l'État et les structures privées qui puissent nous amener à être vraiment au top mondial de la recherche en santé.